30 secondes avant départ, vous n'oublierez pas bien sûr de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles remontent le temps et s'intéressent à la naissance de l'athlétisme moderne à la fin du XIXe siècle. L'athlétisme a trouvé naissance en Angleterre en 1850. Sur les hippodromes. Les sports athlétiques prennent naissance dans les public schools. Les classes populaires imitent les classes aisées lors des foires et fêtes de village. En France, on assiste à la même tradition. L'athlétisme descend du cheval. En 1882, en pleine période d'anglomanie, les lycéens du lycée Condorcet donnent naissance au Racing Club de France et les coureurs s'affublaient de pseudonymes de chevaux. Rive Gauche, à Paris, d'autres lycéens du 6e arrondissement créent en 1883 le Stade français. Un Racing plus bourgeois qui s'installe à la Croix-Catelan en 1886 s'oppose à un Stade français plus scolaire et universitaire. Ces deux structures, rivales mais non professionnelles, créent en 1886 l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques, USFSA. Si l'athlétisme est amateur sous l'influence de Pierre de Coubertin qui rénove les Jeux Olympiques en 1896, des professionnels existent néanmoins et ils pratiquent surtout des courses de grand fond. Paris-Belfort, Paris-Le Havre, ils s'affublent de surnoms comme cerf-volant, l'homme éclair ou l'homme vapeur. Ces derniers sont dans l'Union des sociétés professionnelles d'athlétisme. Il n'y a pas qu'un athlétisme que s'oppose Racicman et Stadiste. Il y a le rugby. En 1872 est créé le premier club au Havre par deux jeunes Britanniques. Deux clubs sont créés à Paris, le Racing Club de France en 1882 et le Stade français en 1883. Puis viennent Bordeaux en 1885 et Toulouse en 1889. Le rugby a été diffusé par deux canaux, les ports de commerce et surtout les universités. Le Stade français devient le premier club champion de France de rugby en 1892 en remportant le match contre le Racing Club de France, score 4-3. L'Union des sociétés françaises des sports athlétiques admet le rugby en son sein dès 1890. La Fédération française du rugby, FFR, est créée en 1920 et se sépare de l'USFSA. Il en est de même pour le football et le basket. L'USFSA disparaît donc en 1920. Le 20 novembre 1920, la Fédération française d'athlétisme, FFA, est créée. Côté du monde du travail, il faudra attendre 1907 et la création de l'Union sportive du Parti socialiste, USPS, qui deviendra la Fédération sportive du travail, FST. La scission du Parti socialiste en 1920 au Congrès de Tours n'est pas sans conséquence entre sportifs socialistes et communistes. Les socialistes créent l'Union des sociétés sportives et gymniques du travail, U2SGT, tandis que les communistes gardent l'appellation FST. La fusion de ces deux fédérations devient en 1934 la Fédération sportive et gymnique du travail, FSGT. C'est ensuite en 1936 l'avènement du Front populaire. Le nouveau secrétaire d'État au sport et aux loisirs, Léo Lagrange, établit des accords avec l'Union française des œuvres laïques d'éducation populaire, l'UFOLEP. La FSGT s'est opposée à la présence de la France aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Le portrait de Géo André, 1889-1943, athlète et rugbyman du début du siècle, est intéressant à plus d'un titre. On y retrouve la proximité athlétisme-rugby, la concurrence Racing-Stade français, la guerre qui stoppe les carrières et les records, le monde d'avant, des vies d'athlètes du début du siècle qui nous ouvrent les yeux. La vie est-elle la valeur suprême? Pour Georges Ivan André, dit Géo ? La réponse sera donnée par son vécu, empreint de passion et de générosité. Amour des proches, le sentiment d'injustice, l'exigence de dignité vont l'amener à sacrifier sa vie lorsque la barbarie mettra ses valeurs supérieures en danger. Géo André est né le 13 août 1889 à Paris et c'est à l'âge de 10 ans qu'à Lausanne, dans un pensionnat où l'on pratiquait l'enseignement à l'anglo-saxonne, que le jeune Géo découvrait les joies du sport. Retour en France en 1902. L'enfant grandit, puis arrive 1906. Lycéen à Janson de Sailly à Paris, il s'oriente vers le saut en hauteur. Il n'a pas 17 ans. Et sous les couleurs du Stade français, il bat le record du saut en hauteur sans élan, avec 1,38 m. L'année suivante, il devient recordman de France du saut en hauteur classique, avec 1,79 m. Il est déjà porteur d'espoir. En 1908, année des Jeux Olympiques de Londres, Géo André va connaître la grande forme en ce mois de juillet. Son éclectisme lui vaut le titre de champion de France du 110 mètres haies, agrémenté d'un record de France. Mais quelques jours plus tard, à Londres, le 21 juillet, Géo André devient vice-champion olympique du saut en hauteur, avec 1,88 m, ex aequo avec un Anglais et un Hongrois. Et encore, anecdote, son short trop flottant fit tomber la barre lors de son essai pour l'obtention du titre olympique. 4 ans plus tard, sa participation aux Jeux de Stockholm 1912 dans 6 épreuves lui laissera un souvenir mitigé. Sous les drapeaux, pas entraîné, il subira en effet la mauvaise volonté de son capitaine, furieux de le laisser partir, malgré les pires menaces ministérielles. Aussi fonde-t-il tous ses espoirs sur 1916, à Berlin, des Jeux qui n'auront pas lieu en raison de la Première Guerre mondiale. Entre-temps, il adhère au Racing Club de France et intègre les écoles supérieures d'électricité, puis d'aéronautique, sa nouvelle passion. C'est en 1908 qu'il obtint son brevet de pilote d'avion de tourisme et une grande partie de sa vie sera consacrée à cette nouvelle aventure humaine. D'ailleurs, il deviendra secrétaire général de l'aviation populaire durant l'entre-deux-guerres. 1914. La jeunesse du monde allait s'affronter d'une toute autre façon que sur les stades. Mais en ce début d'année, le 1er janvier, Géo André est sélectionné dans l'équipe de France de rugby pour affronter l'Irlande. Devant 20 000 spectateurs, dans un parc des princes frigorifié, le trois-quarts Géo André réalise un exploit en réussissant un essai d'anthologie. Celui qui sera surnommé le Bison portera 7 fois le coq sur la poitrine et était promis à une longue carrière rugbystique. C'était sans compter que la planète s'embrase et que l'humanité vacille. Mobilisé dans l'infanterie au premier jour de la guerre, il est fait prisonnier le 3 septembre. Il s'évade à plusieurs reprises et réussit à rejoindre le sol français en 1917 pour s'engager dans l'aviation jusqu'à l'armistice. En 1920, les fumées de l'horreur sont quelque peu dissipées et déjà les Jeux d'Anvers pointent à l'horizon. Il possède depuis 1913 le record national du 400 mètres haies en 57 secondes. Sa progression dans cette spécialité va lui permettre de parvenir en finale des Jeux et d'échouer d'un rien pour le bronze. 4e en 54 secondes, 8 dixièmes, alors que le vainqueur, l'Américain Frank Loomis, bat le record du monde en 54 secondes. Petite revanche quelques jours plus tard, lorsqu'il montera sur la 3e marche du podium avec ses camarades du 4x400 mètres, arrachant le bronze aux Américains. Encore 4 années d'eau passant sous les ponts, puis ce furent les Jeux Olympiques de Paris 1924. Qui mieux que Géo André, chantre de l'amateurisme, est digne de prêter le serment olympique? Plus qu'un serment, un acte de foi, il a 35 ans et se retrouve de nouveau en finale olympique du 400 mètres haies. Il tente le tout pour le tout et obtient une remarquable nouvelle 4e place. Journaliste depuis 1918, il peut sans concession commenter sa course. Le miroir des sports, l'intransigeant, la vie au grand air, le journal entre autres, auront le privilège des écrits du journaliste Géo André. Plus de 400 mètres haies, plus d'athlétisme, mais la vie continue. Alors, comment ne pas parler de la chair de sa chair, de sa fille Christiane et de son fils Jacques, ce dernier suivant les traces de son père, tant sur 400 mètres haies que dans les airs. 1940, la bête immonde tisse sa toile sur la planète, mais Géo André ne capitule pas. À bord d'un Simoun en compagnie de son fils, Il s'envole de Lézignan avec 4 litres d'essence et pique sur Alger où sa fille va les rejoindre. Ils vont continuer le combat. Christiane participera dans les forces libres aux campagnes d'Italie et de France. Jacques, lui, deviendra colonel de la célèbre escadrille Normandie-Niemen. Géo André, commissaire adjoint chargé des sports lors de la création de l'école des cadres des chantiers de la jeunesse de Fort-de-Lau, s'engage à 53 ans dans les corps francs de l'armée Giraud. Le 4 mai 1943, dans les ruines de Mateur, en Tunisie, il tombe dans une embuscade. Criblé de balles, il paye le prix fort de son amour de la liberté. Aujourd'hui, dans un monde où la médiocrité s'affiche, sa fille Christiane se rappelle avec pudeur et dignité de celui qui fut pour elle et son frère Jacques un maître de vie.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.